voir certains visages rayonnants. Merci aussi Marc. À Marc qui... Je ne sais pas où il était, Marc. Pour son témoignage, c'est encourageant de voir que Dieu est un Dieu de grâce, qui est vivant, qui agit à travers toutes les circonstances, même les circonstances les plus délicates, les plus pénibles. Merci Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous te remercions, éternel notre Dieu, parce que tu es vivant. L'œuvre de la croix a été nécessaire pour le salut de nos âmes, mais tu es sorti du tombeau, ressuscité, et tu vis à nos côtés. Nous pouvons nous appuyer sur toi tous les jours. Nous pouvons compter sur ton secours tous les jours. Nous pouvons compter sur ta grâce chaque jour. Nous pouvons compter sur ta bonté qui ne cesse de se déverser à flot dans chacune de nos vies. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, ô notre Dieu, et nous voulons t'aimer. Non pas seulement en parole, mais nous voulons aussi t'aimer, Seigneur, comme nous invite à le vivre l'apôtre Jacques en action, par notre attitude, par nos comportements, par tout ce qui peut nous caractériser. Seigneur, que tu nous encourages encore ce matin à travers cette réflexion et que nous puissions, Seigneur, faire un pas supplémentaire dans notre relation avec toi, dans notre vie avec toi, au nom de Jésus, nous voulons te prier. Amen. On va lire dans le livre d'Esther au chapitre 7, si vous le voulez bien. Esther, il n'est pas facile à trouver ce petit livre-là, hein? 10 chapitres. C'est après le livre des Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Chapitre 7, et puis au verset 3. Esther, chapitre 7, verset 3. La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, ô roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. » Encore si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. Le livre d'Esther. Jusque-là, la lecture. Le livre d'Esther a la particularité qu'on ne trouve pas le nom de Dieu dedans. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. Et d'ailleurs, les chrétiens et les juifs ont débattu longuement quant à savoir s'ils allaient l'introduire dans le canon des Écritures ou pas. On ne trouve d'ailleurs pas parmi les manuscrits de la Mer Morte qu'on a trouvé à Qumran, qui comportent la quasi-totalité des livres de la Bible, on ne trouve pas de traces du manuscrit d'Esther. Cependant, si on ne trouve pas le nom de Dieu dans le livre d'Esther, on voit qu'il est présent et agissant en faveur de son peuple depuis le début jusqu'à la fin. On voit la main de Dieu qui veille, qui continue à veiller sur la vie de son peuple. Alors le livre d'Esther concerne les Juifs qui sont restés dans l'empire des Mèdes et des Perses après l'édit de Cyrus qui a été promulgué en 500 vers 539. On sait que sous Cyrus, eh bien les Juifs ont été autorisés à rentrer chez eux, mais plusieurs qui se plaisaient peut-être dans la terre d'exil, peut-être parce qu'ils avaient entamé des commerces, commencé des affaires, ou bien parce que, pour diverses raisons, plusieurs sont restés dans l'Empire médo-perse. Et le livre d'Esther s'adresse précisément à cette catégorie de personnes juives qui est restée dans l'Empire des Mèdes et des Perses. Alors les Mèdes et les Perses, ce sont deux peuples voisins qui habitaient l'actuel Iran. Xerxès Assuérus, c'est pas facile à dire ça, je ne vais pas vous demander de le prononcer. Xerxès Assuérus, c'était le souverain perse qui vivait à l'époque d'Esther. Et il régnait sur un empire qui était immense, 127 provinces, qui s'étalait, qui allait depuis l'Indus, donc depuis l'Inde, jusqu'en Éthiopie en passant par l'Égypte. Un empire immense. Et le roi Xerxès, donc, qui était le fils de Darius, Darius était le roi qui était devenu l'ami du prophète Daniel, petit-fils aussi de Cyrus, qui a promulgué l'édit dont nous venons de parler, eh bien, était un roi que la Bible appelle le roi des rois. Peut-être que on peut y voir une sorte de type d'un autre roi des rois, je ne sais pas, je ne m'avance pas jusque-là, bien que certains le pensent. Et l'histoire d'Esther aussi, est-il peut-être intéressant de rappeler, eh bien, elle se déroule vers la fin de, vers l'achèvement de la reconstruction du temple d'Israël sous Zorobabel, Esdras et puis Néhémie. Alors, durant l'un de ces nombreux festins organisé par le roi en faveur de ses serviteurs et de ses princes, un festin qui a duré 180 jours, nous dit le livre d'Esther, à un certain moment donné, le roi va vouloir exposer la beauté de la reine Vashti devant ses convives. Mais, à la surprise générale et surtout à celle du roi, la reine va refuser de suivre les deux eunuques qui sont venus pour l'escorter jusqu'à la salle des festivités. Et le roi va en être profondément affecté, il va se mettre en colère à un point tel que pour ne pas perdre la face et pour ne pas perdre son autorité, il va destituer, il va enlever la dignité de reine, de la reine de Vashti, et il va la répudier. C'est alors que quelque temps plus tard, il va y avoir un concours de beauté. Et le roi va être invité à choisir parmi les plus jolies filles du royaume celle qui va devenir sa future reine et qui va remplacer la reine Vashti. Alors, c'est à ce moment-là qu'intervient Esther, que Esther apparaît. Esther qui signifie en perse « étoile », mais dont le nom hébreu est Hadassa, qui signifie myrte. C'est un petit arbre de référent qui pousse dans l'hémisphère sud. Alors, Esther est une jeune fille, orpheline de père, orpheline de mère, qui a été élevée par son oncle Mardoché ou Mordécaï. Elle est belle de taille et de visage, de figure, nous dit la Bible, et elle va être sélectionnée parmi les plus jolies filles du royaume pour être ensuite, à son tour, après d'autres, présenté au roi. Et dès que le roi la voit, dès que le roi l'aperçoit, il va en tomber amoureux. Il va y avoir un flash. Une belle histoire, vous savez, le livre d'Esther. Il va être ébloui par la voix chantante d'Esther, par sa modestie, par son tempérament réservé et par aussi le respect de l'autorité qu'elle incarne quelque part. Et c'est ainsi que la reine, enfin Esther, va devenir la reine de l'empire médo-perse et va remplacer Vashti auprès du roi Xerxès Assuérus. Alors Mardoché, son oncle, va sagement dans un premier temps lui conseiller de ne pas révéler son identité juive et il va s'asseoir comme pour veiller sur elle à la porte de la maison du roi. Et c'est là qu'il va surprendre une conversation entre deux serviteurs du roi, deux eunuques du roi, Bigthan et Teresh, qui conspirent contre lui et qui veulent le tuer. Alors, en entendant cela, Mardoché va aller dire à Esther, et puis Esther va aller le rapporter au roi, et puis après une enquête qui va s'avérer exacte, qui va confirmer les dires de Mardoché et d'Esther, eh bien, le roi va ordonner que l'on pende les deux eunuques, et tout cela est inscrit dans le livre des annales du royaume, dans le livre qui dans lequel se trouve toute l'histoire du royaume des Mèdes et des Perses. Et puis on arrive au chapitre 3, avec un autre protagoniste, en la personne de Aman. Aman, que le roi veut anoblir. C'est un prince, parmi les princes perses, et le roi va le nommer, en quelque sorte, grand vizir de sa cour. Et au-dessus de tous les autres princes. Et le roi Xerxès veut tellement honorer le prince Aman qu'il va ordonner que tous ceux qui le rencontrent, où qu'il aille, se prosternent devant lui. Cependant, Mardoché, qui a révélé entre-temps son identité juive, quand il va voir passer le prince Aman, eh bien, il va refuser de se prosterner. Tout d'abord parce que c'est un homme et tout bon juif ne se prosterne que devant Dieu et Dieu seul. Donc il va refuser de se prosterner devant Aman d'une part, parce que Aman est un homme, et puis d'autre part aussi parce que Aman est l'ennemi de toujours, de génération en génération, d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est un Agagite. Et les Agagites, c'est qui? Ben, ce sont les descendants du roi Agag qui est un Amalécite. Et on se souvient de l'épisode du roi Saül qui a marqué le début de la monarchie en Israël. Eh bien, à qui Dieu avait demandé d'aller combattre les Amalécites et de dévouer tout par interdit, c'est-à-dire de détruire tout ce qui appartenait aux Amalécites, y compris la ville du roi. Tout devait être détruit. Mais seulement, le roi Saül avait épargné le plus beau du bétail et la vie du roi Agag. Alors, mais l'antagonisme, en fait, il remonte à une époque bien antérieure encore à celle de Saül, puisque, en Exode chapitre 17, verset 16, eh bien, nous voyons que, dès sa sortie d'Égypte, dès la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, eh bien, le peuple des Amalécites s'est opposé aux enfants d'Israël et il y a eu un conflit là. Et l'Éternel a dit, eh bien, les Amalécites, seront des ennemis d'Israël de génération en génération. Donc voilà l'arrière-plan qui explique finalement l'animosité profonde qu'il y a entre d'une part Mardoché et surtout Aman, l'Amalécite, l'Agagite. Alors, devant le refus de Mardoché de se courber et de se prosterner devant Aman, Aman est en furie, il est en colère. Il est blessé dans son orgueil. Et il va non seulement s'en prendre au juif Mardoché, mais il va aussi également s'en prendre à tout son peuple juif, à tout le peuple juif qui vit dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et alors, avec l'assentiment, avec l'accord du roi Xerxès, qui ne va pas se préoccuper de chercher le pourquoi des choses, eh bien, Aman va recevoir les pleins pouvoirs pour pouvoir exterminer tous les juifs qui se trouvent dans le royaume des Mèdes et des Perses. C'est-à-dire que le roi va lui donner son anneau qui représente, qui symbolise l'autorité absolue qui est conférée au prince Aman. Alors, superstitieux, Aman va s'en remettre au sort qu'il croit être dirigé par ses divinités, pour connaître le jour exact du génocide qu'il va déclencher. Alors, on ne sait pas si ça va être la courte paille, si ça va être les dés qui vont être jetés. Toujours est-il que l'Éternel va utiliser le geste hasardeux de Aman pour définir lui-même le jour exact où le génocide devrait avoir lieu. Et ça va tomber le 13e jour du 12e mois de Hadar, c'est-à-dire tard dans l'année, ce qui va permettre justement au plan de Dieu de pouvoir s'opérer convenablement en faveur des Juifs. Alors il faut savoir que depuis ce moment-là, les Juifs célèbrent une fête particulière qui leur rappelle effectivement que le peuple d'Israël a été l'objet d'un grand salut de la part de l'Éternel. Et chaque année, le 14 du 12e mois d'Adar, mois hébreu Adar, eh bien les Israélites célèbrent ce qu'on appelle la fête de Pourim, que Mehdi aime bien célébrer, parce que c'est un judaïsant, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Eh bien, donc, chaque année, les Juifs célèbrent la fête de Pourim, qui leur rappelle justement le grand salut opéré par Dieu en leur faveur. Et Pourim vient du mot pour, de l'acadien pour, qui signifie tout simplement tirer au sort. Et je ferme ici la parenthèse. Le décret est ensuite écrit par Aman et envoyé jusque les provinces les plus éloignées du royaume de Perse et de Médie. Et ce décret stipule aussi, ceci dit en passant, qu'il concerne tous les Juifs du plus jeune au plus âgé. Tous doivent périr. Et puis, Mardoché puis la reine Esther sont bouleversés et sous l'insistance de son oncle, la reine Esther va accepter, au péril de sa vie, d'aller trouver le roi pour lui présenter sa requête et intercéder en faveur de son peuple. Je dis au péril de sa vie parce qu'on ne se présentait pas devant le roi comme on voulait. On ne va déjà pas chez le médecin sans prendre un rendez-vous. Quand on devait se présenter devant la royauté, devant le roi, ici en l'occurrence Xerxès, il y avait tout un protocole qui était réservé. Et on devait être introduit d'une certaine manière devant le roi. Mais la reine Esther accepte, sous les instances de son oncle Mardoché, d'aller, pour ainsi dire à l'improviste, rencontrer le roi pour présenter sa requête. Il faut savoir que les conséquences d'une initiative si malheureuse ou si maladroite, eh bien, c'est tout simplement la mort. Et Esther en est consciente. Elle est consciente des conséquences possibles de son acte, puisqu'elle dit, ben, si je dois périr, je périrai. Alors, pour préparer sa démarche, la reine Esther va demander à Mardoché que tout le peuple juif consacre 3 jours de jeûne auxquels elle va s'associer. 3 jours de jeûne qui vont la préparer finalement à entreprendre cette démarche hasardeuse auprès de son époux. Même si elle est reine, elle doit aussi, elle, respecter le protocole. Alors, au moment venu, la reine Esther va vers le roi et grâce à Dieu, le roi, dès qu'il la voit, va lui tendre le sceptre royal qu'elle va toucher. Ouf, on a envie de dire ouf. Elle a trouvé grâce aux yeux de son époux, aux yeux du roi. Elle a gagné sa faveur en quelque sorte. Et alors le roi va lui poser la question, mais tu te montres si pressée, Esther. Quelle est donc la requête que tu as à me soumettre? Et la reine Esther de lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô mon roi, permets que j'organise en ton honneur et en l'honneur du prince Aman un festin qui va durer 2 jours. Et puis, le premier jour du festin arrive, Aman y est convié, et le roi propose de nouveau la question pour la deuxième fois à la reine Esther. Dis-moi, reine Esther, pourquoi est-ce que tu es venue inopinément, de façon si pressée, me rencontrer? Quelle requête as-tu à me faire pour être venue de la sorte? Et la reine Esther, elle fait durer le plaisir, elle fait durer le suspense et elle va dire, Majesté, je vous promets que demain, lors du second jour du festin que je vais organiser en faveur de en votre honneur et en l'honneur du prince Aman, je vous promets que je vous dirai le pourquoi je suis allé inopinément comme ça vous rencontrer. Alors le festin se termine, Aman le prince est tout heureux de sortir des... Bon, c'est à son honneur, il est tout fier, c'est un orgueilleux, hein. Il sort tout content, et puis il passe devant la porte de la maison du roi, et il voit encore le juif Mardoché qui est là, et qui ne veut pas se lever devant lui, et encore moins se courber devant lui. Alors il trouve ça intolérable, il va se maîtriser jusqu'au moment où il arrive chez lui, et puis il va se trouver en présence de son épouse, il va se trouver en présence de ses amis, et il va commencer à déverser à flot toute l'amertume, toute la haine qu'il éprouve envers ce juif Mardoché, et sous le conseil de ses amis et de son épouse, eh bien, il va dresser une potence haute de 50 coudées, c'est-à-dire qu'elle fait environ 25 mètres de haut, pour que le Mardoché y soit pendu. Alors il est décidé, dès le lendemain matin, de se rendre auprès du roi et de lui demander son accord pour que Mardoché soit pendu. Il faut savoir que plus la potence était haute, plus l'humiliation du supplicié était grande, parce que ça pouvait se voir de loin. Ça dépassait parfois même la hauteur des murs de la ville, l'humiliation que Aman a voulu rendre à Mardoché. On a peut-être ici, ceci dit en passant, une image voilée de l'œuvre de la croix. On va comprendre peut-être pourquoi un peu plus tard. Donc Aman se rend, non, avant de se rendre au petit matin chez le roi, il y a le roi qui souffre d'une insomnie, il ne parvient pas à dormir. Il est nerveux, il se retourne dans son lit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est nerveux, quand on ne sait pas dormir, quand on souffre de l'insomnie? Soit qu'on allume la télévision, soit qu'on prend un livre, soit qu'on se met à la lecture. Eh bien, c'est ce que le roi Xerxès va faire. Il va appeler ses serviteurs et il va leur demander de lire dans le livre des annales pour occuper son esprit, pour meubler le temps lié à son insomnie. Mais on sait que finalement, cette insomnie n'est pas liée au hasard, mais que la main de Dieu est derrière, et c'est lui qui dirige, qui continue à diriger toutes les circonstances par lesquelles le roi même Xerxès est en train de passer. Et donc, justement, précisément, les serviteurs du roi vont entamer la lecture dans le livre des annales et ils vont lire, eh bien, l'épisode précisément où Mardoché a déjoué un complot qui se tramait contre la vie même du roi Xerxès. Alors le roi d'interroger les serviteurs, qu'est-ce qu'on a fait en l'honneur de Mardoché pour le récompenser? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense? Et les serviteurs sont obligés de dire, mais on n'a rien fait pour lui. Et puis au petit matin, la nuit est passée, le petit matin arrive et il y a, comment il s'appelle encore ça, Aman le prince qui arrive au petit matin. Alors, il s'annonce, le roi le reçoit, et avant même que Aman ouvre la bouche, il était venu pour lui demander l'autorisation de pendre à la potence le juif Mardoché, il y a le roi qui lui demande, tiens, Aman, qu'est-ce que tu ferais à un homme que le roi veut honorer? Alors, il est totalement aveuglé, Aman, et il pense que le roi va parler de lui, alors il commence à dire, Majesté, je le revêtirai d'un habit royal, je le ferai monter sur le dos d'un cheval, et je le ferai conduire par le plus haut dignitaire de la cour à travers toutes les rues de la ville, et je demanderai au dignitaire de crier, voici celui que le roi veut honorer. Alors le roi s'adressant à Aman et de lui dire, eh bien, tu vas faire comme tu as dit. Tu vas prendre le vêtement royal, tu vas prendre le cheval, et tu vas conduire le juif Mardoché à travers toutes les rues de la ville en criant, voici celui que le roi veut honorer. Alors, Aman, on aurait bien voulu être là pour filmer la scène finalement, hein. Mais Aman va être complètement bouleversé. Il va être humilié au plus bas des points. Il est horrifié, mais il est obligé d'obéir. Et il est couvert de honte. Enfin, peu de temps après, la deuxième journée du festin arrive. Esther convie encore le roi et le prince Aman. Et cette fois-ci, le glas va bientôt sonner pour Aman. La reine Esther, plutôt le roi va encore poser cette question à la reine Esther. Alors, reine Esther, cette fois, est-ce que tu vas me déclarer la raison de ta venue précipitée auprès de moi? Quelle est ta requête? Et Esther de dire au roi, en allant cette fois-ci droit au but, nous sommes condamnés à être détruits et tués, mon peuple et moi, majesté. Alors le roi est interloqué et il s'interroge. Mais qui est-il et où est-il celui qui en veut à la vie de ma reine? Et la reine Esther, cette fois, en semblant pointer du doigt le prince Aman, de dire au roi Xerxès, l'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Aman. Trois titres que la Bible, trois noms que la, par lesquels la Bible désigne aussi Satan, le diable lui-même. Il est l'adversaire des frères, il est l'ennemi de nos âmes et il est le méchant. Aman est terrifié, bien évidemment, et tout s'effondre en une seconde pour lui. Tout s'écroule pour lui. Et le roi en colère ordonne que, eh bien, Aman, le prince, soit pendu sur la potence même qu'il avait dressée pour y pendre le juif Mardoché. L'objet qui allait concourir à la chute, à l'anéantissement, à la défaite de Mardoché est devenu finalement un objet de victoire. Et en cela, ne peut-on pas y voir d'une façon voilée l'œuvre de la croix où l'ennemi pensait avoir la victoire, mais où finalement il a été précipité dans la défaite par cette œuvre de la croix. Alors, l'histoire de la reine Esther n'est pas tout à fait terminée. Mais on va s'arrêter là parce que. Mais si vous voulez poursuivre, connaître la fin, le dénouement final de l'histoire de la reine Esther, eh bien, il suffit que vous relisiez les chapitres 8, 9 et 10 du livre d'Esther, les trois derniers chapitres du livre d'Esther. Alors, pour en arriver aux leçons pratiques finalement, elles sont nombreuses les leçons à tirer de cette histoire. On pourrait parler du jeûne. On pourrait aussi mettre en évidence la foi, la fidélité et le courage dont ont fait preuve Mardoché et sa nièce la reine Esther. Mais le point que j'aimerais souligner ce matin, en particulier, c'est l'attitude solidaire de la reine d'Esther envers son peuple, envers la menace qui pèse sur son peuple. Cette attitude qui nous rappelle que, finalement, le sort de chaque chrétien dans le monde devrait sensibiliser tout le peuple de Dieu. Nous vivons dans un monde de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste. Mais personne, s'il appartient au peuple de Dieu, ne peut dire que ce qui arrive à ses frères ici ou là ne le concerne pas. Nous ne pouvons pas rester indifférents au sort de nos frères et sœurs qui connaissent la souffrance, qui connaissent la persécution, qui connaissent le martyre, qui connaissent l'emprisonnement. Nous ne pouvons pas, en principe, rester indifférents à leur sort. Même s'ils sont à 10 000 kilomètres, même s'ils habitent à 10 000 kilomètres de chez nous, même si nous ne les avons jamais vus, même si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons rester indifférents à leur sort. Alors le corps de Christ, ce sont nos frères et sœurs, bien évidemment, qui sont au loin, mais ce sont ceux aussi qui sont plus proches, nos frères et sœurs que nous connaissons, nos frères et sœurs que nous voyons, nos frères et sœurs avec lesquels nous prions, avec lesquels nous adorons Dieu, avec lesquels nous sommes en communion, nos frères et sœurs qui font partie de cette même église locale à laquelle j'appartiens. Et là aussi, nous ne devrions pas rester insensibles. Et nous devrions également nous sentir pleinement concernés par rapport à leur situation, par rapport à leur état, par rapport à leur position, quelle qu'elle soit. C'est l'apôtre Paul qui dit en 1 Corinthiens 12, verset 12, ce verset bien connu, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Si je souffre d'une carie, c'est tout mon corps qui va s'en ressentir. Je ne vais pas être bien. Je vais être dans un état d'accablement. Si je marche sur une épine, je risque d'avoir de l'infection et dans le pire des cas, je peux souffrir d'une septicémie. C'est tout le corps qui en pâtit. Les souffrances d'un membre du corps de Christ devraient également affecter les autres membres. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui arrive à nos frères et sœurs, qu'ils soient au loin ou qu'ils soient proches. Les plus faibles, ont besoin des plus forts. Esther, malgré sa position de reine, malgré son statut enviable, malgré la protection dont elle bénéficiait, malgré le confort dont elle bénéficiait, malgré qu'elle était l'épouse du roi des rois, comme le nomme l'auteur du livre d'Esther, elle s'est montrée solidaire de son peuple. Elle a décidé de jeûner pour lui pendant 3 jours. Elle était profondément affectée, profondément troublée, profondément meurtrie par la situation précaire dans laquelle se trouvait son peuple. Et n'oublions pas qu'elle est allée même trouver au péril de sa vie le roi sans suivre le protocole qui était prescrit à l'époque. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Alors, et nous allons terminer par là, que Dieu nous accorde en Christ, Romains 12, verset 16, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, pour ceux qui sont au loin, comme pour ceux qui sont plus proches. Que Dieu nous aide vraiment à considérer l'attitude de cette reine Esther, pleinement solidaire, pleinement concernée par la situation dans laquelle se trouvait son peuple. Elle s'identifiait à son peuple comme Moïse s'est identifié au peuple d'Israël. Elle s'est identifiée à son peuple, finalement comme Jésus s'est identifié aussi à son peuple. Il est venu sur cette terre et il est allé jusqu'à devenir péché pour l'humanité pour que nous puissions aussi bénéficier du grand salut dont nous sommes les bénéficiaires pour l'éternité. Alors que Dieu nous donne de réfléchir un petit peu sur les leçons qui peuvent nous inspirer de cette biographie, de cette vie de la reine Esther. Thank you.